France Culture. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que la musique s'écoute aussi, voire surtout maintenant en ligne, et même 20 ans tout pile pour la plateforme YouTube qui fête en ce 14 février son anniversaire. Alors si YouTube ne diffuse pas uniquement des contenus musicaux, d'autres en ont fait leur spécialité, ce sont les Spotify, Deezer et autres plus discrets comme Qobuz, des plateformes qui proposent de la musique, parfois appelée de façon assez révélatrice, des contenus pour peu que l'on soit abonné ou que l'on accepte de prêter l'oreille à une page de pub. Un modèle qui, derrière cette apparente simplicité, est non seulement bien plus complexe, mais a eu du mal à trouver une forme de stabilité économique, puisque c'est seulement le mois dernier que Spotify a annoncé être rentable pour la première fois de son histoire. Surtout, une nouvelle logique de rémunération des artistes s'est mise en place dans ces laboratoires numériques où l'on transforme le nombre d'écoutes en monnaie sonnante et trébuchante, ou pas, car si les tensions entre artistes et maisons de disques font partie de la légende de l'histoire de la musique depuis longtemps, l'ajout d'intermédiaires nouveaux que sont ces plateformes n'a pas nécessairement contribué à améliorer les conditions matérielles d'existence des musiciens et interprètes qui peinent à faire valoir leurs droits dans ce qui est devenu une véritable industrie du streaming. Une situation qui avait fait réagir Emmanuel Macron en décembre dernier. Il avait alors estimé dans une interview donnée au magazine Variety qu'aujourd'hui, avec les services de streaming musical, les chanteurs ne reçoivent pas une juste rémunération. Point. Alors que le modèle du streaming commence à atteindre une forme de maturité, comment ces modèles économiques et les systèmes de redistribution qui lui sont propres ont-ils transformé les artistes? Entre plateformes et labels, comment s'opère la valorisation de leur production? Et face à l'impératif de la quantité pour exister, les artistes sont-ils en somme contraints de devenir de véritables entrepreneurs? L'indépendance, parfois prônée comme une façon de briser les liens inégalitaires entre production et diffusion, est-elle une alternative envisageable ou un luxe que seule une minorité qui a déjà bénéficié du système peut se permettre? Toutes ces questions sont donc abordées au cours de la table ronde d'Entendez-vous l'écho du jour, programmée et préparée aujourd'hui par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Alex Dang. Les trois invités sont avec nous aujourd'hui. François Moreau, vous êtes professeur en économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes spécialiste des industries culturelles et puis vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à La Rochelle grâce à Paul Caillot, que j'en profite pour remercier. Bonjour François Moreau.
Bonjour.
Sophie Fanen, vous êtes également avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et cofondateur du média en ligne lesjours.fr, où l'on peut retrouver, entre autres évidemment, votre série La Fête du Stream, qui a récemment, je crois, entamé sa 6e saison. Voilà, ça fait...
Une grosse affaire.
Exactement. Et enfin, Suzanne Combeau, vous êtes également avec nous à distance depuis les studios, cette fois d'ici Gironde à Bordeaux, grâce aux bons soins d'Antoine Muel, que je remercie aussi. Et vous êtes autrice, compositrice, interprète. Vous êtes également déléguée générale de la Guilde des artistes de la musique que vous avez cofondée. Bonjour et soyez la bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
Suzanne Combeau, peut-être un mot sur cette Guilde des artistes de la musique. Quel est son but et puis quelles sont les raisons qui ont présidé à sa fondation en 2013?
Alors, j'ai cofondé la Guilde des artistes de la musique en 2013 avec les artistes Axel Bauer, Kent et Issam Krimi, dans l'idée de fédérer la communauté des auteurs, compositeurs, interprètes et souvent artistes entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans la nécessité ou le choix de produire eux-mêmes les enregistrements, les promouvoir, les vendre, les commercialiser, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir un siège à la table des discussions de l'industrie musicale pour pouvoir promouvoir les intérêts des artistes de la musique, à l'ère notamment du streaming.
Juste pour faire un petit point, Suzanne Combeau, en termes de syndicalisation, de représentation justement des artistes, comment se compose le paysage? Est-ce que les syndicats prennent, les syndicats traditionnels que l'on connaît toutes et tous, CGT, CFDT entre autres, est-ce que les problématiques des musiciens et des musiciennes sont prises en compte, ou est-ce qu'il y a un trou dans la raquette au niveau de cette communauté artistique vis-à-vis des syndicats?
Les syndicats traditionnels représentent également les musiciens et les musiciennes dans le salariat, dans l'aspect salaire et accord de travail. Bien sûr, il y a la CGT Spectacle qui est la branche qui s'occupe des problématiques des artistes, mais ils ne vont pas embrasser les sujets relatifs aux droits d'auteur, et ils ne vont pas non plus forcément embrasser non plus les sujets hors salariat et protection salariale. Donc c'est pour ça que la gamme a voulu exister, c'était pour fédérer en fait des individus qui exercent plusieurs métiers et qui surfent sur plusieurs régimes sociaux. Alors voilà.
Et on va voir effectivement que les artistes, alors je ne sais pas si on peut dire de plus en plus, mais que les artistes échappent effectivement à cette classification du salariat et sont contraints, ou en tout cas voient ces formes aussi qui sortent de la pure relation contractuelle, on va dire, qu'est le salariat, et notamment sous l'effet de l'arrivée de ces fameuses plateformes. Alors justement, François Moreau, reprenons le fil, et puis aussi la raison pour laquelle on a décidé de faire cette émission. On apprenait le 4 février dernier que Spotify était devenu pour la première fois donc de son histoire, et une histoire qui a débuté en 2006, que Spotify est pour la première fois donc rentable. Or, Spotify, c'est tout de même la plus grosse plateforme de streaming musical avec 675 millions d'utilisateurs à travers le monde. François Moreau, comment expliquer que cela ait pris autant de temps ?
Si ça a pris autant de temps, c'est que comme n'importe quelle plateforme, Spotify a des coûts de développement qui sont très importants. Ça a été un développement mondial. On imagine beaucoup d'investissements pour gagner tous ces marchés. Donc la plupart des plateformes, hein, Facebook en premier, a mis des années avant d'être rentable. Ce qui est plus particulier pour le streaming musical, c'est que les contenus coûtent particulièrement cher pour une plateforme, au sens où il y a une redistribution des revenus qui sont 30%, pour faire très simple, hein, 30% gardés par la plateforme, donc Spotify en l'occurrence, et 70% qui reviennent à l'industrie musicale au sens large. Au sens où c'est ce qui est reversé aux ayants droit des titres qui sont écoutés. Au départ, pour Spotify, il y a eu un problème supplémentaire, c'est que il fallait attirer les majors, hein, qui n'étaient pas du tout convaincus au départ du bien fondé du modèle du streaming, et que pour les attirer, il y a des conditions extrêmement avantageuses qui ont été établies, notamment des avances assez substantielles, des minimums garantis qui donc garantissaient aux majors un certain revenu annuel indépendamment des recettes de Spotify. Et donc tout ça pendant très longtemps a fait que la rentabilité était compliquée à obtenir. Depuis le début de l'année 2024, il apparaissait effectivement que Spotify serait probablement rentable en fin d'année, ce qu'ils ont été. Mais avec là aussi des explications qui sont de divers ordres. Côté positif, c'est qu'ils ont réussi à augmenter leurs recettes, en même temps gagner encore des abonnés et augmenter le revenu par abonné.
Oui, puisque l'abonnement payant reste une source de recette majeure pour ces plateformes.
C'est la recette majeure. Un des problèmes, c'est un autre problème, mais dans toutes ces plateformes, c'est que généralement le nombre d'utilisateurs gratuits, c'est-à-dire qui utilisent la partie financée par la publicité, est plus importante. Les utilisateurs gratuits sont beaucoup plus importants que les utilisateurs payants, mais les utilisateurs payants représentent 90% du chiffre d'affaires de la plateforme. Et puis l'autre explication de la rentabilité très récente de Spotify, c'est la capacité à réduire les coûts. Et là, c'est un mélange de peut-être une partie, la fin de certains avantages qui étaient accordés aux majors, mais c'est surtout une réduction dans les dépenses de personnel, puisque Spotify a licencié plusieurs milliers de salariés en 2023. Et puis c'est aussi une façon de réduire les coûts, là peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais qui est réduire le coût des contenus, c'est-à-dire en sorte que les contenus coûtent de moins en moins cher, soit parce que c'est le phénomène des faux artistes, des fake artistes, c'est-à-dire des contenus qui sont achetés à des brokers qui produisent en masse des contenus parce que le Spotify a observé que finalement beaucoup d'utilisateurs de Spotify écoutent plutôt Spotify comme une musique d'ambiance.
On va revenir effectivement, François Moreau, sur cette distinction à faire entre
vrai
et faux artiste.
Ce qui explique la rentabilité, c'est ça aussi, c'est donc augmentation des recettes, mais aussi forte réduction des coûts.
Et Sofian Fanel, dans quelle mesure ce qui arrive à Spotify, à savoir la rentabilité, tout simplement, est une exception, puisque si on a bien compris ce que vient de nous expliquer François Moreau, à partir du moment où on a un peu cette loi immuable du 30%-70%, on peut se dire Spotify ou n'importe quelle autre plateforme aura beau augmenter ses revenus, le pourcentage sera toujours le même, cette division sera toujours la même, il y a une forme de progression certes, mais fondamentalement le modèle ne permet pas forcément d'être rentable à partir du moment où on ne change pas cette règle d'or là.
Alors la règle d'or, elle changera probablement jamais parce que Spotify ou n'importe quelle plateforme de streaming est quand même assis sur le catalogue, le contenu, le travail du monde de la musique. Donc vraiment, s'il y a bien quelque chose qui bougera pas, en tout cas pour le domaine musical, parce que comme François Moreau a commencé à le dire, Spotify a mené une quête pour finalement réduire le poids de la musique dans ses dépenses et dans l'usage de ses utilisateurs. Ce qui est compliqué pour Spotify est comme finalement les rares plateformes qui sont ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire qui sont toutes seules, dont le seul métier c'est de vendre de la musique, c'est qu'elles ont un modèle très différent de Apple Music, de YouTube, d'Amazon Music, qui vendent d'autres choses et pour qui la musique est une sorte de cadeau, où on ne cherche pas une rentabilité, alors que Spotify ou Deezer par exemple, ou Qobuz, ont vraiment la nécessité d'être rentable tout seul.
Et on le voit, c'est un objectif atteint pour Spotify, on le disait à l'instant. Alors pour bien comprendre justement ce qui constitue les recettes de ces plateformes, mais aussi les coûts, des coûts que Spotify a tendance à vouloir largement réduire, je vous propose d'écouter Daniel Ek, le PDG justement de Spotify, qui expliquait les bases de son modèle en novembre 2023.
Beaucoup de gens me demandent combien vaut un stream. Certaines personnes vont faire des calculs, mais on ne paie pas par stream. Notre modèle fonctionne comme ceci. Chaque mois, on a une certaine quantité de revenus qui entrent. Pour te faire une idée, Spotify engrange environ 1 milliard d'euros par mois. Près de 70% de ce montant va aux ayants droit. Et là-dedans, en fonction du succès qu'a eu l'artiste, ce mois-là, par rapport à tous les autres artistes, il aura un certain pourcentage. Cela fonctionne comme ça. Prenons un exemple. Si vous êtes un artiste très populaire et que vous comptez 1% de tous les streams de ce mois, alors vous aurez 1% de ces 70% des revenus, donc de ces 700 millions d'euros. Voilà ce que vous toucherez. Et qu'il y ait eu beaucoup ou peu de streams ce mois-là, peu importe, vous touchez quand même la même somme. Donc vous me demandiez comment un jeune artiste pouvait avoir les mêmes chances qu'un artiste plus connu. C'est justement basé sur cette répartition. Si vous créez quelque chose qui a du succès, alors vous gagnez beaucoup d'argent. C'est très simple.
Sofian Fanen, quelle crédibilité accordée aux propos qu'on vient d'entendre? Est-ce que les choses fonctionnent vraiment comme cela? Vous faites 1% des écoutes des streams, vous recevez 1% des fameux 70% qu'on évoquait à l'instant.
Alors c'est malheureusement plus compliqué que ça, et c'est la réponse éternelle du monde de la musique. C'est très nébuleux, c'est qu'en en fin de compte, c'est effectivement un système de part de marché. D'ailleurs, disons-le, c'est un système qui n'a pas été décidé par les plateformes de streaming. C'est un système qui a été décidé par les majors du disque, d'ailleurs sans les labels indépendants, à la naissance de Spotify et à la naissance de Deezer en France, qui est vraiment concomitante, les contrats se négocient en même temps, ce sont les trois majors, Universal, Warner, Sony.
Qui avaient besoin d'être attirés, c'est ce que nous disait François.
Exactement, on veut attirer Céline Dion, les Beatles, Queen, tous les gros morceaux, Nina Simone, Billie Holiday, etc. Et on veut pas forcément, enfin, on se moque un peu, je mets plein de guillemets là-dedans, de l'artiste de techno polonais que personne ne connaît. Et donc, ce sont les majors qui ont dicté leur loi et qui ont fabriquer ce modèle économique fortement à leur avantage, fortement à l'avantage des artistes qui vont être très visibles et qui vont faire un fort volume de stream. Mais pour revenir sur le modèle économique, en fin de compte, on a effectivement un système à la part de marché, sauf que ce sont les distributeurs qui ont les parts de marché, sachant que chaque major est son propre distributeur. Et donc vous allez avoir les majors qui se distribuent et ensuite des gros agglomérats d'indépendants qui distribuent énormément de labels ou d'artistes en direct. Et ensuite, c'est là où il y a une difficulté et où on peut jamais dire qui gagne quoi et combien, à quel moment, c'est que chaque artiste a un contrat avec sa maison de disque, avec son distributeur. On a comme ça une sorte de millefeuille, et c'est le contrat qui lie l'artiste et la maison de disque et le distributeur à la fin, qui détermine la part. Et on a des artistes qui ont, par exemple, alors, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais au début du streaming, il y a des artistes qui avaient des vieux contrats qui dataient de l'époque du CD pour certains, hein, ou du téléchargement, avec des logiques qui n'étaient pas du tout celles du streaming, et donc ils se retrouvaient avec des taux de reversement extrêmement faibles. Aujourd'hui, les artistes ont beaucoup renégocié ça, et c'est notamment l'explication de leur autonomisation et du fait qu'ils soient devenus des entrepreneurs. C'est aussi pour gagner en puissance et pour récupérer un maximum de revenus et supprimer un maximum d'intermédiaires dans cette histoire.
Mais de fait, Suzanne Combeau, quand ces plateformes-là commencent à prendre de l'importance, alors on se doute bien que Spotify n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui en 2006, en 2007, qu'il y a eu un petit temps de pour trouver une forme de maturité. Mais de fait, quand les artistes se retrouvent confrontés à ce modèle-là, Sofiane Fanel le disait à l'instant, avec des contrats basés sur une économie beaucoup plus matérielle, on va dire, de la musique, comment est perçu ce tournant-là ? Est-ce que dès le départ, les artistes ont conscience qu'il se jouait là quelque chose dont ils n'avaient pas forcément la maîtrise ?
Tout à fait. Dès le départ, on ne comprenait déjà pas tout très bien. Il y a des difficultés de transparence dans les redditions de comptes entre les labels et les artistes. Mais alors là, avec l'avènement du streaming, ça a été encore plus compréhensible, un peu plus illisible encore. Et c'est aussi ça qui a procédé à la nécessité de se rassembler pour s'informer, pour se parler de nos contrats, pour pouvoir spotter les difficultés, notamment celle de l'assiette de rémunération qui n'avait plus rien à voir, le streaming étant une économie de l'accès, là où le disque est une économie physique. Notre rémunération dans le disque est basée sur un prix gros hors taxe, là où sur le streaming c'est basé sur le chiffre d'affaires net encaissé par notre intermédiaire, soit le label, soit le distributeur. C'est une assiette qui est donc beaucoup moins transparente qu'un prix gros hors taxe, vous l'imaginez bien. Et ces sommes nettes encaissées varient selon le poids, comme l'a dit Sofian, du label ou de la maison de disque. Et ensuite, on a quand même réussi depuis, effectivement, comme le dit aussi Sofian, à rehausser les taux, à créer une distinction dans la loi entre l'assiette des ventes de disques et l'assiette des ventes digitales, ce qui a permis maintenant d'avoir des taux plus adaptés et plus en phase avec son temps.
Suzanne Combeau, je vous pose la question parce qu'on ne sait pas nécessairement comment se passent aussi, j'allais dire les rapports de force, mais on peut déjà de façon plus neutre dire les relations, on va dire, entre les artistes en question et les labels et les maisons de disques, très concrètement, et notamment à l'aune de ce changement-là majeur de modèle économique. Comment ça se passe très concrètement ? Parce qu'on pourrait se dire que les artistes sont en mesure d'imposer au moins leurs intérêts auprès de leur label, puisqu'on a bien compris que tout ça avait été construit, on va dire, entre plateformes de streaming et major. Est-ce que ces majors-là ont voulu défendre l'intérêt des artistes qu'elles représentaient ou au contraire trouver un modèle qui leur serait profitable aussi ? Comment très concrètement se passe cette relation finalement entre maisons de disques et artistes ?
C'est quelque chose qu'on a du mal à établir. C'est un lien un peu de cohérence d'intérêt, de devoir fiduciaire d'une maison de disques. En réalité, les maisons de disques ont des actionnaires. Enfin, je parle des majors. Elles ont des intérêts un peu décorrélés de ceux des artistes. Je prends un exemple très concret. À la naissance des plateformes de streaming, les maisons de disques ont acquis des prises de participation au capital des plateformes. Sans penser à le partager avec les artistes qui constituaient la valeur de leur catalogue. Voilà, ça prouve un peu quand même, voilà, le type de relation qu'on peut avoir. C'est là où une société de gestion collective de droits d'auteur comme la SACEM va agir un peu plus en phase avec les intérêts de ces auteurs, des auteurs et des éditeurs qu'elle représente.
Bon. Oui, on va voir effectivement le paysage français, les institutions françaises sont assez spécifiques de ce point de vue-là.
Oui, François, tout à fait, François, c'est assez complexe.
Oui, exactement, on va rentrer dans ce détail-là. François Moreau, il faut peut-être insister sur la spécificité de Spotify. Daniel Ek avait multiplié les prises de parole, qui avait fait pas mal réagir aussi, dans le sens où ces prises de parole-là donnaient une nouvelle vision, au moins une vision très particulière de l'artiste. Il avait notamment affirmé en juillet 2020 que l'on ne peut pas enregistrer de la musique une fois tous les 3 ou 4 ans et penser que cela suffira. Là, je le cite, ce n'est pas moi. Finalement, on a vraiment l'impression que cette logique du volume supplante à tout autre dans ce modèle économique, notamment porté par Spotify.
Oui, tout à fait. Et ce qui est d'ailleurs assez édifiant dans l'extrait de Daniel Ek, c'est la façon dont il présente les revenus des artistes, où, comme le notait Sofian, il oublie totalement les maisons de disques et son discours tend à faire croire que une fois qu'on calcule la part de marché, c'est cette part de marché multipliée les 70% des recettes de Spotify qui part dans qui constitue le revenu de l'artiste. Et le Spotify continue d'ailleurs quand ils font pas mal d'annonces disant par exemple cette année plus de X milliers d'artistes ont touché 100 000 euros, 100 000 dollars de la part de Spotify. Mais en réalité, c'est pas les artistes, c'est les ayants droit au total. C'est ce que le travail de l'artiste a généré comme revenu. Mais c'est évidemment pas du tout cette totalité-là qui lui revient. Donc je trouve qu'il y a quand même une façon un peu, c'est en même temps une façon un peu malhonnête de présenter les choses, mais c'est effectivement complètement dans la logique de Spotify pour lequel il faut faire du volume, donc les artistes doivent générer en permanence, c'est un peu la logique réseaux sociaux, il faut être présent en permanence, il faut toujours générer de la nouveauté pour générer du stream, ce qui est d'ailleurs est pas complètement vrai, parce que l'avantage du streaming, c'est aussi que la consommation se fait sur la durée. Là où auparavant un artiste vendait un disque
il devait faire un coup d'éclat
il y a 10 ans et qu'il était, ou même que ce disque était un grand succès et que les gens qui l'avaient acheté continuaient de l'écouter pendant 10 ans. Il avait touché les revenus au moment de la vente du CD, c'était terminé. Aujourd'hui, un artiste qui dure, qui continue à être écouté, obtient des streams et donc des revenus sur la durée. Mais c'est pas le modèle de Spotify. Le modèle de Spotify, c'est la playlist, c'est l'idée que il faut orienter la consommation. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, ils sont convaincus que les gens n'écoutent finalement pas vraiment la musique. Ils ont besoin de la musique d'accompagnement,
de fond sonore,
pour faire du sport, pour faire des dîners, pour etc., même pour dormir. Et donc, on va leur donner de la musique dans les playlists. Et tant qu'à faire, on va essayer de réduire les coûts de cette musique dans les playlists en y mettant des contenus qui coûtent moins cher.
Suzanne Combeau, vous souhaitiez réagir?
Oui, juste pour compléter, il y a quand même, c'est pas une généralité. D'abord, un titre qui dure, il n'y a pas beaucoup d'artistes. On a de plus en plus de mal à faire durer l'exploitation des titres. En tout cas, en rémunération, c'est vraiment sur 18 mois d'exploitation sur le streaming qu'on va faire le maximum de chiffre d'affaires. C'est vraiment les 18 premiers mois qui sont clés. Après, ça peut être un peu vraiment une économie de pièces jaunes, sauf évidemment à moins d'avoir fait un immense succès.
Et effectivement, ça permet de mettre une forme de nuance aussi dans ce qu'on disait à l'instant. Sofian Fanen, cette histoire de bruit de fond d'ambiance sonore peut sembler un peu superficielle, mais il n'en est rien. Et surtout, si on rajoute à cela le contexte qui a notamment le vent en poupe en ce moment, et notamment celui des progrès de l'intelligence artificielle et de son utilisation, on a repéré récemment qu'environ 10 000 pistes étaient totalement générées par intelligence artificielle et qui sont livrées à la plateforme Deezer chaque jour, donc c'est quand même un volume assez conséquent là pour le coup, c'est environ 10% du contenu quotidien livré. En quoi ça pose un problème, Sofian Fanen?
Alors c'est à mon avis, le problème principal auquel le monde de la musique là se frotte. Non, pas encore en fait. Oui. Tout le monde est un peu tombé de sa chaise quand Deezer, qui est la seule plateforme aujourd'hui dotée de ces outils qui permettent, donc d'outils maison, qui permettent d'aller repérer les titres entièrement ou quasi entièrement générés par IA. Il s'agit pas là d'aller viser des artistes qui travaillent avec l'IA, où il y a une création humaine,
une forme de coopération
artistique, oui, et une forme de coopération. Où là on est, c'est un autre débat, mais on est vraiment dans un outil de création comme les sampleurs, les ordinateurs, c'est une autre histoire. Là, c'est la problématique des titres qui sont 100% générés par IA avec des visées différentes. On a des gens qui s'amusent, il y a un cube en ce moment qui s'appelle Nous sommes les patates, je vous le conseille.
Sur le site, je ne doute pas de sa qualité artistique.
Ça fait beaucoup rire les enfants dans les cours de récréation, c'est un gros succès en ce moment, mais il y a aussi, moi j'ai publié un article cette semaine sur Les Jours où je parle d'un faux artiste, s'appelle Nick Hussles, je vous le conseille également, qui publie vraiment de très nombreux morceaux qui imitent un groupe de soul américaine des années 70, et c'est absolument troublant. C'est pas passionnant, au bout d'une minute, on voit bien que ça tourne en rond, mais si on fait pas attention, on peut tout à fait se retrouver avec ce genre de morceaux dans une playlist, et en fait c'est la problématique, c'est qu'on vient, effectivement, il y a énormément d'utilisateurs qui viennent sur les plateformes de streaming, alors pour écouter de la musique qu'ils ont envie d'écouter à plein de moments de la journée, mais il y a aussi d'autres moments de la journée où on n'est pas concentré. Et on a besoin d'un bruit de fond pour plein de raisons. Pour se concentrer, pour masquer le bruit ambiant, pour endormir un enfant, il y a plein de gens qui font ça, pour s'endormir soi-même. Et donc c'est des bruits de rivière, des bruits de ventilateur, des bruits blancs, des bruits roses, on appelle ça également. C'est
une son d'ambiance,
une haute aspirante, deux hautes aspirantes, etc. Plus toute une famille musicale qui vont être des musiques un peu, ce qu'on appelle de mood. Donc ça va être de l'ambiance un petit peu électronique très tranquille, du piano jazz un peu mou, des beats un peu Ibiza, mais vraiment très très mou, très tranquille.
Relax, oui.
Et comme le disait François Moreau, Spotify, depuis plusieurs années, payait des entreprises qui elles-mêmes payaient des vrais artistes pour composer ces morceaux-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'IA le fait très bien parce que c'est de la musique absolument moyenne, absolument molle, et à partir du moment où le public de ces musiques-là, à ce moment-là, n'y prête pas attention, dans l'esprit de Spotify, on peut remplacer les artistes par de l'IA. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où le public est capable d'aller dans son inattention. Je pense qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui. Et je ne sais pas si le public va nous surprendre en bien ou en mal. Il y a une longue histoire de la musique molle, si on est réaliste dans le monde de la musique. Mais ça va être vraiment une sorte de crash test pour les plateformes de streaming. Il y a un bras de fer qui va s'enclencher avec les artistes, avec les maisons de disques, quelle va être leur attitude. Il y a déjà des majors qui essaient de signer des artistes 100% IA, donc quelle va être l'attitude même des maisons de disques qui elles-mêmes pourraient y voir une façon de réduire leurs coûts. C'est aussi des entreprises cotées en bourse et qui sont assez cyniques aussi sur ces aspects-là. Donc vraiment, on est dans un moment où tout le monde se regarde et il va falloir poser des règles et de l'éthique dans tout ça.
Mais surtout, Sofiane Fanen, on a un peu envie de se dire que le combat est potentiellement perdu d'avance, dans le sens où quand bien même le public aurait des exigences musicales, aurait aussi cette envie de partir à la découverte d'artistes pointus, exigeants, etc. Il n'empêche qu'en termes de volume d'heures, on ne peut pas écouter 150 fois en boucle un morceau extrêmement abouti musicalement. On pourra écouter effectivement à l'infini du son d'ambiance de ce point de vue-là, ne serait-ce qu'en termes de nombre d'heures d'écoute, c'est quand même un combat.
Le problème, c'est que ces artistes, ces faux artistes qui deviennent de l'IA, mangent du volume de stream. Et en fait, du volume quotidien de l'auditeur ou de l'auditrice. Et en fait, on en revient systématiquement au problème fondamental du début du streaming, c'est la dictature du volume de stream, c'est-à-dire que fonder toute la logique, toute la logique des chiffres, de l'audience, de la réussite, même pour des artistes, pour trouver des dates de concert, etc., etc., tout est basé sur le volume de stream. Et ce volume de stream, c'est pas un outil pertinent pour énormément de musiciens, pour énormément de musique. Et du coup, le fait de mettre tout le monde à la même aune, sur les mêmes plateformes, avec le même modèle économique, crée l'ensemble des problématiques qu'on a aujourd'hui. Ces problèmes de l'IA, mais aussi les problématiques de la fraude au stream précédemment, et globalement, les problématiques de rémunération d'artistes qui se sentent pas vraiment en phase avec ce que les plateformes de streaming leur proposent.
Ce qui est intéressant dans cette question aussi, Suzanne Combeau, c'est que, et notamment parce que Daniel Ek avait argumenté dans, je crois, un tweet, qu'aujourd'hui les coûts de production de la musique étaient proches de zéro, ce qui était censé être un argument pour ensuite justifier de fait son modèle de rémunération. Mais on a un peu envie de se poser la question. Ok, on a compris qu'il y avait des sons d'ambiance, des sons notamment générés par l'IA qui pouvaient être produits à très très bas coût. Très concrètement, quand on produit de la musique, quand on produit un titre, qu'est-ce qui coûte cher, Suzanne Combeau ?
Les coûts de production incluent évidemment l'enregistrement sonore, donc la fixation sur bande, sur ordinateur des morceaux. Selon l'esthétique dans laquelle on se trouve, on va avoir des exigences, par exemple, avoir un quatuor à cordes, un piano, un grand studio. Il faut payer l'ingénieur du son, le réalisateur artistique. Il y a pas mal de monde qui travaille sur des propositions artistiques, et ensuite il y a les coûts de marketing qui en général sont c'est 50% du prix, ça va être l'enregistrement, et il faut mettre la même somme au moins pour la promotion. Donc les coûts de production ne sont pas proches de zéro, contrairement à ce que dit monsieur Ek. Et effectivement, on voit bien que la logique est de pousser au volume. Il y a une profonde méprise de l'art, de la musique en tant qu'art. Il y a une industrie qui va l'exploiter sur la musique comme divertissement et comme bruit de fond, effectivement, pour accompagner les humeurs des uns et des autres. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on assiste une pacification des êtres humains. C'est comme s'ils allaient de moins en moins réfléchir. Donc, je sais pas si on peut s'attendre à ce que les auditeurs nous surprennent agréablement en essayant de faire des efforts pour démasquer, défricher des pépites artistiques. Et d'autant qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de la playlist. On n'écoute plus un album en entier. On s'intéresse beaucoup moins à l'univers proposé par un artiste que à coller à son humeur du moment.
Et avec un risque énorme aussi, potentiellement, de voir un fossé se creuser entre les fins amateurs de musique et une forme de nivellement par le bas pour une grande majorité d'autres auditeurs, et qui auraient tout à fait le droit, mais que ça demande un effort supplémentaire, on va dire, que de s'orienter vers de la musique plus aboutie. Et du reste, Jean-Michel Jarre, le fameux musicien français, avait conspué Spotify samedi dernier lors d'une table ronde qui se tenait dans le cadre du sommet pour l'IA qui a lieu en ce moment à Paris. Il avait vraiment accusé Spotify de vouloir se passer des artistes.
Wanadoo, il avait fait une campagne de pub. Wanadoo, c'était France Télécom, c'était à l'État, qui avait dit, mais pour 15 euros, toute la musique gratuite. Alors, les petits saltimbanques avec leur musique, ils vont pas nous embêter, ça va nous servir de produit d'appel, et on va y aller, quoi. Mais c'était ça, l'idée. 100 fois ni loi.
France Culture. Entendez-vous l'écho, Aliatovine.
Voilà un extrait de votre documentaire, Sofian Fanen, Comment le streaming a mangé la musique. C'est sorti en 2023, et on entendait là Pascal Nègre, l'ancien président d'Universal Music France, qui a été président donc de 1998 à 2016, si mes souvenirs sont exacts. Ce qu'on entend finalement dans tout ce qu'on vient de dire, François Moreau, c'est qu'il y a certes Spotify qui a l'air de mettre en œuvre une politique assez agressive, on va dire, et fortement fondée sur le volume. On peut citer aussi son concurrent direct Deezer. Les deux ne sont pas nécessairement à mettre dans le panier, et on peut se poser la question si un modèle alternatif ne pourrait pas exister. Le 15 janvier dernier, Deezer, en partenariat avec la SACEM, a annoncé renforcer son modèle pour une rémunération plus équitable des droits d'auteur des artistes et davantage liée à ce que les abonnés écoutent, justement. Notre modèle garantit qu'une part plus importante de ce que les abonnés paient revient aux artistes qu'ils écoutent, tout en permettant de lutter contre la fraude. Finalement, François Moreau, on peut croire en cette perspective d'un autre modèle économique.
Alors, sur les questions des modèles économiques et surtout des modèles de rémunération, c'est vrai qu'il y a eu des avancées ces derniers temps. Pour bien comprendre, actuellement, jusqu'il y a très peu de temps, le modèle, c'était ce qu'on appelle un modèle de rémunération au prorata. Donc, comme on disait, c'est effectivement la somme des revenus du streaming à redistribuer aux ayants droit était redistribuée au pourcentage du nombre de streams total. Ce qui avait quand même une conséquence assez spécial, c'était que finalement, quelqu'un qui écoute 3 ou 4 000 streams par mois, finalement, compte beaucoup plus dans la rémunération que quelqu'un qui n'en écoute que 300. Et avec comme conséquence que finalement des individus cette différence entre les niveaux de consommation fait que, pour être très concret, quelqu'un qui écoute très peu de musique généralement subventionne en quelque sorte via son abonnement les artistes écoutés par ceux qui font énormément de stream.
Oui, puisque le prix de l'abonnement est le même pour tout le monde.
Très simple, en France, si vous êtes un petit utilisateur de votre abonnement, probablement que en 2023, l'essentiel de votre une bonne part de votre abonnement partait aux ayants droit de Jul. Voilà. Parce que c'était l'artiste le plus tant mieux pour lui, mais c'était et c'est cette idée qui effectivement était un peu une cette rémunération au prorata, elle avait sens dans le monde du CD où effectivement quand on vendait en CD, celui qui vendait le plus de CD avait des revenus plus importants que celui qui en vendait le moins. Mais parce que une même personne achetait un CD et ensuite qu'elle l'écoute beaucoup ou pas beaucoup, ça changeait rien. Et c'est ça qu'on a modifié en fait. Et cette idée aujourd'hui, ça reviendrait dans le monde du CD à dire, quand j'achète un CD, il y en a une petite partie qui va à la personne qui a fait le CD, et une autre partie, très importante si j'achète pas beaucoup de CD, qui va aller au plus gros vendeur de CD en France du moment, ce qui est totalement absurde. D'où l'idée d'essayer de venir, et c'est ce que Deezer notamment avait promu il y a quelques années, de venir à un système user-centric, comme on dit
c'est ça,
dans
le
jargon.
Market-centric ou user-centric.
Voilà, user-centric qui serait quelque chose de la même chose, sauf que c'est fait au niveau de l'abonnement de chaque personne. Voilà. Les 7 euros de l'abonnement net d'un individu vont aller aux gens qui l'écoutent réellement et au prorata du nombre de streams.
Ce qui peut interroger François Moreau, c'est qu'on se dit que finalement ce modèle-là, il répond à une certaine logique, voire même à un certain sens de la justice. Est-ce qu'il est particulièrement compliqué à mettre en place, dans le sens où ce serait compliqué de mesurer effectivement quelle écoute revient à qui? Est-ce qu'on peut potentiellement aussi se dire que c'est potentiellement un peu injuste aussi pour quelqu'un qui n'aurait pas du tout été écouté? Comment on peut expliquer que finalement ce modèle-là, il n'apparaisse pas comme une évidence finalement pour tout le monde?
C'est parfois difficile à expliquer. C'est sûr que c'est pas une question d'être très compliqué. Dans le cadre de travaux de recherche, on a reproduit un mini user-centric et le travail pour construire les modèles de rémunération n'est pas du tout insurmontable. D'ailleurs, Deezer l'avait fait en parallèle de leur du paiement market-centric, ils étaient capables de mesurer ce que donneraient les résultats avec un user-centric. Alors, une partie des explications, elle est dans les changements que ça induit. C'est-à-dire que passer aux user-centric, effectivement, aurait des changements assez notables. Ça ferait une baisse de revenus pour les artistes les plus streamés. Les 10 plus streamés verraient une baisse significative dans leurs revenus. Un genre musical particulier en souffrirait beaucoup, c'est le rap, rap musique urbaine, parce que les personnes qui écoutent ce genre musical-là, en règle générale, font beaucoup de streams, ont une utilisation très intensive. La musique récente serait aussi pénalisée. Quand on fait un peu le mélange de toutes ces conséquences, on comprend que les maisons de disques, et notamment les majors, aient été très réticentes parce que ça faisait des changements trop importants dans le mode de rémunération de leurs artistes, même si c'était juste revenir à une situation qui était considérée comme normale et plus juste. Et du coup, le système qui s'est imposé, en tout cas qui a été proposé pour faire un juste milieu quelque part entre le user-centric et le market-centric, l'artiste-centric essayait de reproduire un peu ça. Alors même si la version initiale, la version Spotify est assez violente, parce que c'est l'idée de dire c'est un peu un Robin des Bois à l'envers. On enlève les streams de tous les titres, de tous les artistes qui sont très peu écoutés en fait, et on va les redistribuer aux autres. Pour faire simple, c'est la principale mesure. Chez Deezer, ça a été un peu différent. On a aussi démonétisé, comme ils disent, en tout cas moins monétisé tous les titres qui sont promus par l'algorithme de recommandation. en donnant la priorité à de la musique que choisit vraiment l'auditeur et non pas de la musique qui lui est imposée. Et puis, on a également, et là Spotify l'a fait aussi, essayé de prendre une action contre la fraude, un peu très volontariste. Mais à l'arrivée, et sans surprise, et c'est peut-être sans doute pour ça que ce modèle artiste-centrique a bien été accepté par les maisons de disques et notamment par les majors, c'est que ça ne change pas grand-chose. Mais c'est facile à comprendre. Si oui, jamais on prend si les artistes qui font moins de 1000 streams par an, c'est à peu près 5% du volume total de streams. Donc si on redistribue 5% aux autres 95%, c'est sûr que ça ne va pas changer grand-chose.
Et ce qui est intéressant aussi dans ces deux cas de figure, Sofiane Fanen, c'est peut-être aussi la question de... Bon, là, on a l'impression que Deezer a fait ce partenariat avec la SACEM parce que peut-être qu'il avait envie de se donner cette image de marque-là aussi, de type plus sympa, on va dire, que Spotify. Mais on a l'impression qu'au-delà de la bonne volonté et d'une forme de rationalité économique évidente, mais au-delà de la bonne volonté de chacun, il n'y a pas vraiment de cadre qui obligerait justement à passer à un modèle plutôt qu'à un autre, à un système de rémunération plutôt qu'à un autre. Alors, on a parlé de la SACEM qui, on va y revenir, aussi représente les artistes, mais très fondamentalement, au-delà de, effectivement, des enjeux peut-être d'image, qu'est-ce qui forcerait, qu'est-ce qui ferait que les choses pourraient changer ?
Le départ en masse des auditeurs ?
Oui, mais, boy,
Mais ça n'arrivera pas. Oui. Mais c'est bien le problème, c'est que, enfin, c'est partie des questions, c'est que toutes ces questions-là sont réduites à des relations contractuelles entre les plateformes et leurs partenaires, comme on dit. Ces partenaires étant, encore une fois, les majors et les grands distributeurs. Et donc c'est à la bonne volonté de chacun, avec la pression plus ou moins existante du public, des artistes. Ce qui change les choses, c'est quand Taylor Swift dit moi, je suis pas d'accord. Ça peut changer quelque chose. Quand les artistes rentrent dans le jeu. Ce qui est compliqué, c'est qu'on le voit depuis le début de l'émission, c'est quand même des sujets complexes. Et donc, aller sur des sujets complexes, quand on est un ou une artiste au risque de brouiller un peu son image, tout est tellement cadré aujourd'hui avec des plans com sur les 6 prochains mois que voilà, c'est assez complexe. Ce qui est un peu dommage, par contre, c'est que, alors c'est peut-être une réponse très, très française ou très européenne, c'est que les États, les gouvernements, l'Union européenne ont très peu mis le doigt dans ces questions.
L'Union européenne l'a fait un petit peu.
Mais en fait, le piège, c'est qu'on est, encore une fois, dans des relations contractuelles. Donc, on est dans de l'économie pure et dure, et on ne peut pas aller... voilà. Sauf que, en fin de compte, on n'est pas tant dans une économie pure et dure, parce qu'à la fin, tout cela, ça a des impacts sur la diversité artistique, sur la diversité musicale, sur les capacité de plein de musique à exister. Et c'est vrai que le fait que, on en parlait tout à l'heure, le fait que les moins de 30 ans, en gros, les moins de 25 ans, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais en gros, c'est 20-25% des Français et des Françaises sur les plateformes de streaming font 70% des streams. Ce qui veut dire que les musiques des plus jeunes seront toujours celles qui dictent l'ensemble du monde de la musique aux dépens de tout un tas d'autres musiques. Aujourd'hui, le rap va très bien, mais dans 20 ou 30 ans, ce sera la musique des vieux, et le rap aura les mêmes difficultés que le jazz ou même le rock aujourd'hui, etc. Donc, on est dans un système qui n'est pas mature dans ce sens-là.
Alors, vous l'avez dit, Sofiane Fanen, sauf à une prise de conscience massive, on va dire, qui serait une forme de boycott ou à des coups d'éclat, et notamment très médiatisés, ça a été celui, notamment le cas de Taylor Swift, pas sûr que les choses changent, mais Taylor Swift n'est pas la seule. On retrouve là peut-être un nouvel aspect aussi du travail de l'artiste, celui qui revient à gérer sa propre carrière, justement une fois qu'on a claqué la porte. C'est ce que raconte la chanteuse Iseult, qui en décembre 2024 revenait sur sa décision de devenir sa propre productrice sur le plateau de C'est à vous.
Mental, c'est un projet que j'ai tout juste de sortir, qui est sorti en septembre, et c'est un projet que j'ai produite en indépendant, 100%, pas d'avance, pas de label. C'est mon label, c'est mon argent, c'est ma sueur. Et je l'ai produite et composée et coécrite avec des artistes incroyables et des auteurs-compositeurs et des producteurs incroyables. J'annonce en exclu que je vais produire notamment aussi ma tournée en France, et ça commencera à partir de mars, parce que je produis également mes projets, mais je produis aussi notamment ma tournée, toute seule. J'ai les fonds nécessaires pour pouvoir financer, donc je suis très fière aussi de cette nouvelle étape, qui est pour moi une étape qui est pas très évidente de financer une tournée complète, comme une très grande, comme une bosse.
François Moreau, ce qu'on entend là, c'est aussi que même derrière ce genre d'initiative qui vise justement à s'émanciper de cette forme de dépendance aussi vis-à-vis des majors ou des plateformes, il y a quand même une question, et Iseult le dit, elle l'assume, il faut avoir les moyens financiers de le faire, mais aussi les compétences. C'était aussi le cas, on l'imagine bien, de Taylor Swift, qui par ailleurs devait avoir une sacrée équipe, et elle a toujours derrière elle. C'est peut-être pas forcément accessible à tout le monde, cette idée de pouvoir claquer la porte.
Alors, c'est effectivement pas accessible à tout le monde. Il y a deux points qui sont importants. Alors, je reviens juste à l'exemple de Taylor Swift sur l'idée qu'elle pourrait changer le rapport de force avec les plateformes. Il faut se rappeler que en 2013, justement, Taylor Swift avait décidé de quitter Spotify parce que elle considérait qu'elle ne voulait pas être sur la tranche gratuite. Elle voulait juste être sur la tranche abonnement. Et elle a tenu quelques mois, elle est revenue. Parce que déjà en 2013, on ne pouvait pas se passer d'être sur Spotify. Donc il y a un peu un côté où les plateformes sont devenues tellement importantes aujourd'hui que malheureusement, même une artiste comme Spotify, comme Taylor Swift, pardon, n'a pas le pouvoir de modifier les choses. Ensuite, du coup, la stratégie de Iseult, effectivement, c'est un peu la stratégie inverse de l'artiste auto-entrepreneur. Et effectivement, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, tous les salariés n'ont pas une âme d'entrepreneur. Et je pense que pour les artistes, ça peut être un peu pareil. Tout le monde n'est peut-être pas capable de se lancer dans un tel projet. Même si cet artiste autoproduit, ça se développe de plus en plus. Pour une part, parce que même si faire un album de musique ou même juste des sons, ça reste coûteux. C'est beaucoup moins coûteux qu'auparavant et la distribution aussi est beaucoup moins compliquée. Donc
oui, il y a moins de barrières à l'entrée. Tout le monde peut poster une vidéo sur YouTube, fondamentalement.
Alors, tout le monde peut le faire. Après, est-ce que tout le monde va être vu ? Non, évidemment, c'est bien ça le problème. On va se retrouver justement parmi les 100 000 titres que reçoit Deezer chaque jour.
Donc on le comprend.
Mais
c'est
vrai que c'est faisable, c'est envisageable.
On comprend, François Moreau, tout l'enjeu, c'est, on vient de le dire, d'être repéré, de se démarquer et donc potentiellement de mettre en œuvre d'autres compétences que les compétences musicales. Se pose là encore la question de l'avenir aussi de la musique en tant que produit culturel, en tant que produit artistique aussi, et aussi la façon dont le vivent les artistes. Et des artistes qui sont particulièrement inquiets lorsqu'ils se rendent compte que leur production, leur art, ne correspond pas forcément aux codes économiques en vigueur.
On me ferme la porte au nez, dans ma poche toujours un CD. Mais on me ferme la porte au nez, je suis toujours prêt à me solder. Mais on me ferme la porte au nez, et les majors et les indés, t'es trop varié, tout est trop spé. On me ferme la porte au nez, oh, on me ferme la porte au nez, ooh, on me ferme la porte au nez. Et les majors et les indés, t'es trop varié, tout est trop spé. On me ferme la porte au nez. Non, non, maman, je fais pas de télé. Ne me demande plus, s'te plaît. Je fais pas les festivals d'été. Je serai chez moi tout juin, juillet. J'aurai jamais mes annuités. Je travaille pour l'éternité. Je me ferme la porte au nez. Oh.
La porte au nez du groupe Mustang. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. C'est le jour de la table ronde d'actualité où nous interrogeons sur ce que font les modèles économiques des plateformes de streaming, notamment à la rémunération des artistes et à la figure de l'artiste lui-même. Suzanne Combo, on s'était quitté avec cette idée que finalement, certes, il n'y avait plus tellement de barrières à l'entrée. On pouvait, YouTube avait permis au moins cela, de rendre accessible une forme de diffusion sur les internets, comme on dit. Reste tout de même cet impératif de se faire repérer. Et finalement, on voit là qu'il y a une forme de fil à la patte. Se faire repérer, pourquoi et par qui? Toujours par les mêmes acteurs. Est-ce qu'il y a une forme d'émancipation qui tout de même peut être envisagée?
Alors ça devient effectivement de plus en plus compliqué de se démarquer dans cet océan de propositions musicales, comme on en a parlé, 100 000 titres par jour publiés. Bon, ça devient la gageure. Le problème est que finalement les intermédiaires, on en a toujours besoin à un endroit ou à un autre. À un moment ou à un autre, et ces intermédiaires qui peuvent en fait nous donner, enfin nous lifter, nous permettre de dépasser un peu nos plafonds de verre, vont regarder essentiellement des datas. C'est un peu le tout data. Avant, on était repéré par des directeurs artistiques pour les, on était repéré par des professionnels qui nous voyaient en concert. On avait beaucoup plus aussi de possibilités de jouer, de se produire sur scène. Là aussi, la scène est un endroit où on peut être vraiment découvert, déniché. Aujourd'hui, on a moins d'opportunités. Il y a de moins en moins de salles qui accueillent des artistes émergents.
Ce qui par ailleurs, je me permets juste de le préciser, sur une combo, et je veux bien avoir votre réaction dessus, mais ce qui par ailleurs, ça aussi est un problème, cette question de la scène, parce qu'on pourrait se dire aussi que la billetterie est une forme de rémunération pour les artistes.
La billetterie est importante, effectivement, surtout pour des esthétiques qui font beaucoup de live. Par exemple, le rap est un peu le grand gagnant du streaming, parce que c'est le genre du moment écouté par la jeunesse aujourd'hui, mais ils vont se produire un peu moins en live que des esthétiques comme le rock ou l'électro ou la chanson. Et donc, on se déporte pas mal sur le live. Donc, il y a une vraie compétitivité aussi. Il y a un problème de concentration également dans le spectacle vivant. En fait, je brosse un tableau un peu sombre, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir le bout du tunnel et à voir comment on peut se démarquer. Et je salue le discours d'Iseult et surtout sa capacité à entreprendre comme elle le fait. C'est vrai qu'elle a vraiment cette mentalité d'entrepreneuse. Et comme le disait très justement François, tous les artistes n'ont pas cette ADN-là, cette vocation et ces talents. Mais c'est vrai que ça permet, en étant son propre producteur, d'engranger plus de rémunération, mais c'est aussi beaucoup plus de travail.
Suzanne Combo, juste pour qu'on comprenne bien, quand on est son propre producteur, ça veut dire que le nombre d'intermédiaires de fait se réduit, mais en étant son propre producteur, est-ce qu'on doit quand même... Il y a quand même une forme d'intermédiation. J'imagine qu'on n'a pas accès directement non plus aux plateformes de streaming. Qu'est-ce qui reste finalement comme couche d'intermédiaire?
Tout à fait. Dans le cas où un artiste s'autoproduit, il passe par un agrégateur. Donc en fait, au lieu de ne toucher que 10% des recettes, il va plutôt en toucher 80%. Il va quand même avoir besoin effectivement d'agrégateurs qui lui permettent de plugger ses titres sur toutes les plateformes de streaming. Moyennant un forfait annuel, ou enfin il y a des différentes modalités.
Oui, ce qui est tout de même représente une large différence. Suzanne Combo, oui. On a parlé de la SACEM aussi. Je voudrais juste faire un tout petit point sur cette spécificité française aussi, qu'est cette société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Dans quelle mesure, eux, représentent, on va dire, une sorte de matelas ou de zone tampon, justement, entre les logiques économiques et notamment portées par le volume des plateformes de streaming, et sont en mesure de négocier avec elles au nom des artistes? Est-ce que ça représente une forme de d'allié suffisamment puissant dans ce paysage-là?
Alors d'abord, ce n'est pas une spécificité française. Chaque pays est doté au moins une société de gestion collective de droits d'auteur. Certains pays en ont plusieurs, comme les États-Unis. Et la SACEM se dit être la meilleure du monde. En tout cas, elle est très compétitive dans ce secteur. Et c'est un allié de taille, effectivement, pour ceux qui sont à l'initiative de leurs œuvres, c'est-à-dire qui les créent, qui les écrivent, qui les composent. Donc ça aussi, c'est important pour un artiste de ne pas être simplement interprète pour maximiser ses sources de revenus. C'est d'être aussi le créateur.
Je vois. Peut-être ce qui représente davantage une spécificité française, quoique Sofian Fanen, c'est évidemment et qui avait fait beaucoup de remous à l'époque. L'époque, c'est décembre 2023, lorsque est décidé d'imposer une taxe à ces plateformes à hauteur de 1,2% afin de financer le Centre National de la Musique. Pourquoi on s'est dit que finalement le plus simple, c'était encore de taxer à ce taux-là indifférencié toutes les plateformes de streaming, Sofian Fanen?
Alors ça a été une négociation très compliquée et ça a même fait une sorte de faille dans la musique sur laquelle on n'est toujours pas revenu. Mais d'ailleurs, ça devait pas être un taux unique, ça devait être un taux différencié selon la taille de la plateforme. Et c'est certains acteurs de la discussion qui ont été un petit peu bornés, qui ont fait qu'à la fin on a un taux unique parce qu'en plus il y avait des enjeux de faire passer cette loi au niveau de l'Union européenne. C'est un peu technique, mais bref. Ce qui est important, je pense, c'est le message qui est envoyé, et la France est assez regardée malgré tout sur ça. Alors peut-être que les temps changent avec le monde que Donald Trump essaye d'imposer et l'Union européenne qui va devoir décider si elle est forte sur ses bases, sur ses aspects réglementaires, ses aspects interventionnistes. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, la France était très regardée, et même ça fait très longtemps, ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Avec un mélange de copies privées, les quotas, le CNC pour le cinéma, qui a réussi à imposer des choses aux plateformes comme Netflix, comme Disney, etc. Et désormais, le Centre National de la Musique qui essaye, qui se construit, de faire pareil pour la musique, c'est-à-dire de partir du principe que la musique, c'est un art, c'est une industrie créative, et donc les seules règles du monde capitaliste le plus sauvage ne peuvent pas s'appliquer intégralement, et qu'il faut des compensations, des coussins, d'investir collectivement pour que la production la plus diverse puisse au moins exister. Et après, on se confronte au problème de la visibilité de cette production, mais au moins, elle a le mérite d'exister. Et à partir de là, on essaie de construire.
Elle a le mérite d'exister, elle a le mérite de marquer une forme de prise de conscience. On pourrait se dire aussi qu'en termes de régulation, vous l'avez mentionné au niveau européen aussi, les choses ont un peu avancé en mars 2019 quand est adoptée la directive copyright qui, elle, prend conscience un peu de quelque chose d'un peu différent, à savoir du rôle de la musique aussi sur des plateformes qui ne sont pas spécialisées nécessairement dans cette diffusion, mais qui de fait en diffusent. Ce sont les YouTube, les Twitch, on pourrait le mentionner aussi, et TikTok évidemment. On le disait, tout ça est soit français, soit européen, et de fait aux États-Unis la situation n'est pas tout à fait la même. C'est ce que mentionnait Chappell Roan, qui a élevé la voix lors de la cérémonie des Grammy Awards où elle a été élue révélation de l'année le 3 février dernier.
Je me suis promise que si un jour je gagnais un Grammy et que je devais me tenir sur scène devant les puissants de l'industrie musicale, je demanderais que les labels et l'industrie qui font des millions de dollars sur le dos des artistes proposent un salaire minimum et la sécurité sociale aux artistes émergents. Parce que j'ai été signée si jeune, encore mineure, et que j'ai été lâchée, je n'ai eu droit à rien. Je n'avais pas d'expérience professionnelle, j'ai mis du temps à trouver un emploi pendant la pandémie, et je ne pouvais pas me permettre de protection sociale. C'était dévastateur de me sentir si enchaînée à ma création. Je me sentais tellement trahie par le système, et déshumanisée de ne pas avoir d'assurance. Et si mon label, à qui je donnais tout, m'avait protégé, j'aurais pu me soigner. Les labels doivent traiter leurs artistes comme des employés méritants, avec un salaire décent et une protection sociale. Label, vous comptez sur nous. Mais est-ce qu'on peut compter sur vous ?
Suzanne Combo, cette parole prend place et lieu dans un contexte très spécifique, celui du système social propre aux États-Unis. Mais si on le rapporte en France, est-ce qu'on pourrait souhaiter aux artistes d'être de fait, comme le dit Chappell Roan, être davantage considérés comme des salariés ? Est-ce que c'est ce à quoi tendent les artistes ?
Les artistes, quand ils sont signés en maison de disques, leurs contrats sont apparentés à des contrats de travail et c'est des CDD d'usage. Donc l'artiste a un statut de salarié, donc il va être protégé. Il aura droit au chômage, enfin il aura des cachets qui pourront lui permettre d'être intermittent. Nous, on a quand même ce régime spécial de l'intermittence qui est extrêmement précieux. et qui permet de d'exister et de tourner et de survivre. C'est pas non plus le grand soir, mais c'est vraiment unique au monde, avec la Belgique qui on dispose aussi de, d'une forme semblable. Et vraiment, ce discours, je l'ai déjà entendu, il me fout encore les poils. Il y a aussi cette, elle parle aussi de la santé mentale et de
exactement
plus tard, oui, voilà, et de en fait, oui, effectivement, on en parlait au début de l'émission. Les labels ont du mal à lier leurs intérêts avec ceux des artistes, et effectivement, on a besoin d'un peu plus de protection. Pour répondre à votre question, le salariat, c'est protecteur, mais ça fait pas, enfin, c'est pas la seule source de rémunération qu'on a. Et le problème, en fait, c'est juste que la notion du salaire implique une subordination. Et c'est vrai que quand on est artiste, on a cette indépendance de création qui peut paraître un peu paradoxale avec ce besoin de subordination. Bon, mais en fait, voilà, protéger tout en encourageant, c'est la grande question. Comment trouver le bon équilibre? Mais en tout cas, nous, on a un système protecteur pour les artistes qui parviennent à faire au moins 42 concerts par an, ou 42 cachés, en tout cas. Qui est l'intermittence du spectacle, qui permet de compléter des revenus qui sont intermittents.
Eh bien, merci infiniment à tous les trois, Sofiane Fenen, François Moreau et Suzanne Combeau, d'avoir participé à cette émission.